RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 9,5-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs des quatre points du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission sera commencée par le journal, suivie les nouvelles de l'Indonésie et l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons également présenter le magazine culturel L'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Voilà le programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant les journaux et les nouvelles de l'Indonésie.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir les auditeurs, bienvenue dans le programme du journal. Aujourd'hui, on commence par le titre « Une exposition indo-japonaise sur l'histoire renforce la coopération culturelle avec le Japon ». L'Indonésie attend la libération des anciens de l'embargo américain. Les participants de la voile d'Indonésie 2018 entrent à Kupang. Le consulat général de Chine a apprécié le traitement des touristes étrangers après le tremblement de terre à Lombok. Et la diaspora indonésienne et le ministère de l'Intérieur ont signé un mémorandum d'accord sur les villes jumelles. Voici les journaux complets. Dans le cadre de la commémoration du 111e anniversaire de la Journée nationale de l'éveil qui a coïncidé avec le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Indonésie et le Japon, le ministère indonésien de l'Éducation et de la Culture en coopération avec la Bibliothèque nationale de la République d'Indonésie, ou PNRI, les Archives nationales de la République d'Indonésie, ANRI, l'Agence nationale de nouvelles Antara et la Succursale d'Indonésie de l'imprimeur appartenant à l'État PNRI de Surakarta. Lokananta ont organisé une exposition historique sur le thème de la floraison du maïs entre Bedil et Sakura. Cette activité a été officiellement ouverte récemment par la directrice générale de la culture du ministère de l'Éducation et de la culture de la République d'Indonésie, Hilmar Farid, dans le bâtiment du PNRI à Jakarta. Selon Hilmar, une partie du matériel exposé était de nouveaux matériaux qui n'avaient pas encore été montrés au public. Par conséquent, cette exposition historique fournira beaucoup d'informations sur la période d'occupation japonaise en Indonésie en 1942 à 1945.
Ini pameran kan sebagian dari materinya untuk pertama kali nih diperlihatkan.
Certains matériaux de cette exposition sont présentés pour la première fois. Il existe plusieurs collections de Pays-Bas, de la Bibliothèque nationale, des archives nationales, et nous souhaitons bien sûr que le public puisse accéder à de tels documents historiques. En plus de faire une exposition, nous publions également des livres puis à la galerie Antara le 14 août. Tout à l'heure, nous avons parlé des riches conversations et expositions à plusieurs villes afin que le public puisse accéder plus largement à l'exposition. Il fournira des informations qui, à mon avis, sont très importantes sur notre section historique 1942-1945 sur la période d'occupation japonaise. Hilmar a expliqué que le but de l'exposition était de fournir une éducation à la communauté et de renforcer la relation de cœur à l'Indonésie et au Japon qui est établie depuis longtemps, en particulier sur l'aspect culturel. Cette activité devrait ouvrir des possibilités de coopération dans le domaine culturel entre les deux pays, plus fort, plus large et plus dynamique à l'avenir. Hilmar a également déclaré que sa partie avait discuté de l'échange de ressources historiques entre l'Indonésie et le Japon. Parce qu'il y a encore beaucoup de sources historiques de l'Indonésie qui n'ont pas été consultées au Japon. Le gouvernement indonésien attend la libération des sanctions de l'embargo américain liées au plan d'achat des 11 avions de guerre Sukhoi ou Su-35 de la Russie et il est déclaré par le ministre de coordination des politiques juridiques et de la sécurité, Wiranto, lors d'une réunion de coordination spéciale sur l'acquisition Su-35, le programme de développement des avions de combat Indonesia Experiment Fighter, vendredi à Jakarta. Le président américain Donald Trump, en août 2017, a signé une loi qui régit les sanctions aux pays qui achètent le système principal d'armement de la Russie. Cependant, en juillet 2018, le secrétaire américain de la Défense, James Norman Mattis, a demandé au Congrès de fournir des secours sur la sanction. Wiranto a également bien accueilli la politique américaine avec la soumission de légèreté et prévoit de libérer les sanctions. L'achat de 11 avions de combat de génération 4.5 pour remplacer le F-5 Tiger obsolète d'une valeur totale de 1,14 milliard de dollars américains. Le paiement de la politique bilatérale de l'Indonésie et de la Russie a été réalisé par le système de troc, à savoir échangé avec des produits d'exportation tels que le café, l'huile de palme, du thé et d'autres produits agricoles. Quelques participants de la Voile de l'Indonésie 2018 venant de nombreux pays du monde sont arrivés à la plage de Kupang, à Nusa Tenggara de l'Est. Cité par l'agent de presse Antara, le chef chargé de destination de l'administration du tourisme de Kupang, Pomi Oja, a déclaré mercredi qu'il y avait une dizaine de navires arrivés. Certains d'entre eux sont en route pour Kupang et des dizaines de participants de la Voile Indonésie 2018 ont quitté Darwin en Australie le 27 juillet en direction de la plage de Kupang. Jusqu'à présent, la plage de Kupang est devenue la première porte d'entrée des participants de la Voile d'Indonésie avant de se rendre dans d'autres régions d'Indonésie. Pomi Oja espère que tous les participants de la Voile d'Indonésie arrivent jeudi après-midi, le 2 août. Il a ajouté que pendant qu'ils sont à Kupang, les participants visiteront plusieurs destinations touristiques telles que la région d'Alor, Lembata et d'autres villes de l'île de Flores. Le voyage se terminera à Labuan Bajo avant qu'il ne quitte pas encore NTT pour visiter d'autres îles en Indonésie. Le consulat général de Chine à Denpasar, Bali, a apprécié le gouvernement indonésien dans l'effort de sauvetage et de traitement des victimes et des touristes étrangers, y compris les citoyens chinois qui ont été coincés au sommet du mont Rinjani quand il y a eu le tremblement de terre à Lombok, à Nusa Tenggara de l'Ouest. Le consulat général de Chine, Guo Haodong, à Denpasar, a déclaré récemment que les 16 touristes chinois avec plus d'un millier d'autres grimpeurs ont été évacués à un endroit plus sûr par l'équipe conjointe locale. Selon Go Haodong, ils sont bien traités et leurs conditions actuelles sont bonnes. Bien qu'il y ait un sens de traumatisme, il est optimiste que cela n'interférait pas avec la visite touristique chinoise, car c'était un événement naturel. Conseil d'affaires de diaspora indonésienne avec le ministère de l'Intérieur ont signé un mémorandum d'accord visant à faciliter la coopération accrue entre les deux villes jumelles, entre des gouvernements principaux ou locaux en Indonésie et en Australie. Antara a rapporté que la signature d'un protocole d'entente entre le directeur régional du Conseil d'affaires de diaspora indonésienne de l'Australie, Astrid Vasil, est le chef du centre de facilitation pour la coopération du secrétariat général du ministère de l'Intérieur, Nelson Simanjuntak, tenu à Jakarta mercredi. Dans un communiqué de presse à Jakarta, Astrid Vasil a expliqué que l'amélioration de la coopération de la ville jumelle entre les gouvernements locaux en Indonésie et en Australie profiterait les deux régions. Les villes jumelles rapprochent les gens et encouragent la croissance du secteur du tourisme dans les deux régions afin de créer des emplois. Le programme de villes jumelles peut également aider la communauté des deux régions à trouver des partenaires commerciaux idéaux et à ouvrir des opportunités commerciales et d'investissement pour les gens d'affaires qui souhaitent explorer de nouveaux marchés. C'est tout le journal aujourd'hui.
Les nouvelles de l'Indonésie. Les informations uniques et intéressantes de plusieurs régions d'Indonésie.
Chers amis, nous continuons notre émission avec les infos de l'Indonésie, un programme qui présente de diverses infos intéressantes de divers coins de l'Indonésie dans une semaine. La première info vient de Siak, Riau. L'école primaire d'État SDN 01 Buantan Lestari Bungaraya en région Siak, Riau stipule jour sans argent de poche tous les premiers du mois et oblige les parents des élèves à cuisiner la cuisine préférée de leur enfant. Le directeur du SDN 01 Buantan Lestari Bungaraya, Muhammad Winto, a déclaré mercredi que la création du jour sans argent de poche vise à permettre aux parents de cuisiner et d'emballer leurs enfants à l'école, tout en enseignant aux étudiants à être économiques. Winto explique que l'idée de mettre en place un jour sans argent de poche se pose parce qu'il a souvent vu les enfants acheter des nourritures légères avant les heures de cours parce qu'ils n'ont pas le petit déjeuner à la maison. SDN 01 Buantan Lestari applique également certains règlements aux commerçants qui vendent dans la cafétéria de l'école, interdisant, entre autres, aux commerçants de vendre de la nourriture et des boissons en utilisant des emballages en plastique. Ensuite, l'info de Boyolali, Java Central. Un certain nombre de professeurs du programme de littérature javanais de la Faculté des sciences culturelles de l'Université d'Indonésie, FIBUI, ont ouvert une école pour les javanais ou l'école de la culture javanaise dans le village Senden, Boyolali, Java Central. Vidyas Maramurti, dirigeant de l'équipe FIBUI, a déclaré mercredi que l'école de la culture javanais allait éveiller les traditions et les cultures locales et développer des villages de tourisme culturel pour les touristes locaux et internationaux. Un autre, comme une aide pour améliorer l'économie de la communauté locale. Le gouverneur de Java Central, Ganjar Pranowo, a assisté à l'ouverture de l'école culturelle de Java jeudi 2 août. Vidyas Maramurti a dit que les dizaines de touristes étrangers vivront une expérience vivante au milieu de la culture javanaise en commençant par l'apprentissage du javanais, du gamelan, du jatilan, soit danse, du ketoprak et du rituel de la cérémonie Tungguk Tembakau. La dernière info vient de Malang, Java Est. Trois étudiants de la faculté de mathématiques et des sciences naturelles de l'université Brawijaya Malang ont créé une nouvelle technologie pour faciliter la lecture dans l'obscurité, à savoir l'encre de stylo lumineuse qui utilise des bactéries. Les trois étudiants sont Nofia Rosa Damayanti, Renaldi Fredian et May Juliana. Ils utilisent des bactéries avec certains processus afin d'émettre de la lumière de sorte que les gens puissent lire clairement même dans des conditions sombres. Novia a déclaré il y a quelques jours que cet appareil contribuait grandement à la mobilité du travail humain, comme la lecture et l'écriture. Cependant, l'éclairage de l'appareil est un rayonnement qui endommage les yeux et rend les yeux fatigués rapidement. En réfléchissant à ces problèmes, Novia et ses deux collègues ont tenté de résoudre des problèmes en utilisant la nature, notamment par l'isolement des bactéries. Certains types de bactéries peuvent émettre de la lumière. Cette bactérie est appelée bactérie de bioluminescence, qui est une bactérie capable de fluorescence. Ces bactéries peuvent être trouvées dans certaines espèces marines. L'écriture qui en résulte est capable de lire dans un endroit sombre, réduisant ainsi l'utilisation de dispositifs électroniques avec des radiations. Chers amis, c'était les infos de l'Indonésie.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 4 août. Nous commençons par l'incident final de l'agression militaire hollandaise 1. Cela s'est passé après que les Pays-Bas aient obéi à la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU d'arrêter son action militaire contre l'Indonésie. Par l'intermédiaire du gouverneur général des Antes néerlandaises, H.G. Van Mook, le gouvernement néerlandais a annoncé un cessez-le-feu qui a pris effet le 4 août 1947 à partir de 24 heures. Le gouvernement indonésien a chaleureusement accueilli cette décision de cessez-le-feu. Le 4 août 1992, le contingent indonésien a remporté la première médaille d'or aux Jeux olympiques. Le contingent indonésien a remporté la première médaille d'or aux Jeux olympiques Barcelona en 1992 après que Susi Susanti, le joueur de badminton indonésien, a remporté la branche féminine de badminton et Alan Budi Kusuma, la branche masculine de badminton. C'était aussi la première fois que le badminton était disputé en tant que branche officielle des Jeux olympiques. Dans la finale, Alan Budikusuma a réussi à battre Ardi B. Viranata, son autre athlète de badminton indonésien, avec un score de 15-12, 18-13. Quelques heures après que Alan ait remporté la médaille d'or, l'Indonésie a de nouveau remporté l'or grâce à Susi Susanti. Susi a réussi à vaincre la résistance de Bang Soo-hyun de Corée du Sud avec les scores 5-11, 11-5 et 11-3. Nous terminons avec le lancement de la navette spatiale Phoenix. Phoenix est un vaisseau spatial sans pilote de l'aéronautique et de l'espace NASA lancé sur Mars dans le cadre du programme Mars Good. Mars est la quatrième planète la plus proche du Soleil. Phoenix a pour mission de trouver l'environnement naturel adapté à la vie des micro-organismes sur Mars et d'étudier l'histoire de l'eau sur la planète. Le véhicule a été lancé le 4 août 2007 et a atterri sur Mars le 25 mai 2008. Le 25 juin 2008, la NASA a confirmé la découverte de la glace sur Mars après avoir découvert une pièce d'objet blanc dans une tranchée creusée par un atterrisseur Phoenix et indiquant que la substance fondait. Phoenix est répertorié comme le sixième atterrissage sur Mars et le premier atterrissage dans la région polaire de Mars. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Indonésiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers amis, nous continuons notre émission avec Mon Indonésie et un petit titre, l'investissement du Qatar dans le tourisme indonésien. Le Qatar investit 500 millions de dollars américains pour le développement du tourisme en Indonésie, en particulier dans 5 destinations touristiques prioritaires, à savoir le lac Toba, Banyuwangi, Labuan Bajo, Borobudur et Mandalika. L'engagement a été pris lors de la signature de l'accord signé par le PDG de Qatar Investment Authority, QIA, Sheikh Abdullah bin Mohammed bin Saud Al Thani, avec le ministre coordinateur des Affaires Maritimes, Luhut bin Sar Panjaitan, à Jakarta, mercredi 1er août. Après la signature, le ministre Luhut a déclaré que le Qatar construirait dans un premier temps un hôtel 5 étoiles à Mandalika, dans la province Nusa Tenggara West. Cependant, le PDG de Qatar Investment Authority, Sheikh Abdullah bin Mohammed bin Saud Al Thani, a déclaré: le gouvernement qatari à travers Qatar Investment Authority était prêt à dépenser assez pour investir dans 10 destinations touristiques en Indonésie appelées Nouveau Bali. Cheikh Abdullah a ajouté que le coût d'investissement illimité a été prêt à donner par Qatar Investment Authority depuis la signature de l'accord est finalisé. Les investissements réalisés par Qatar Investment Authority comprennent la construction d'hôtels ainsi que l'infrastructure de soutien dans les nouvelles destinations proclamées par le gouvernement. Cheikh Abdullah a de grands espoirs pour l'engagement de la coopération. Il a dit que le plan de l'Indonésie pour construire et développer son industrie touristique était une opportunité intéressante pour le Qatar de renforcer le portefeuille d'investissement du pays à travers le monde, en particulier dans le secteur du tourisme. Le Cheikh Abdullah espère de travailler ensemble avec le ministère de la Coordination des Affaires maritimes pour identifier et développer des projets qui feront de l'Indonésie l'une des principales destinations touristiques du monde. En plus des engagements d'investissement dans le tourisme, le Qatar veut investir dans l'agriculture et la pêche à Kalimantan centrale. Le Qatar est également intéressé à ouvrir des vols directs vers Banda Aceh tout en construisant l'aquaculture à Sabang. Du secteur de la défense, le Qatar a également exprimé son désir d'investir dans la construction de navires, de bateaux en caoutchouc pour les soldats spéciaux et la fabrication des bas. Cher ami, c'était mon Indonésie.
Kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu. Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema, maknai kekalahan sebab kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik. Show the world you're as bright as the sun. We deserve to be the one.
Bonsoir tout le monde, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Magazine culturel. Et comme d'habitude, vous pouvez écouter notre émission par www.voynews.id. Aujourd'hui, je vais vous présenter la tradition de Asrah Batin. Donc restez toujours avec nous, la voix de l'Indonésie.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine culturel, Pesona Indonesia.
Le 29 juillet 2018, des milliers d'habitants du village de Karanglangu, le district de Kedung Jati, la régence de Grobogan, Java Central, ont réuni sur la rive de Tuntang. Là-bas, ils se sont réunis pour traverser la rivière de Tuntang pour aller au village de Ngombak, le district de Kedung Jati, Grobogan. Cette activité est connue sous le nom de tradition Asrah Batin, dans une tradition culturelle qui existe depuis des centaines d'années. Les habitants du village de Karanglangu a traversé la rivière qui divise le village de Karanglangu et le village de Ngombak. Les habitants du village de Ngombak accueillent l'arrivée des habitants de Karanglangu, dont le service qui est maximum. Certains sont au bord de la rivière et il y a aussi un spectacle des arts et une variété de plats javanais. La tradition d'Asrah Batin est commencée du matin jusqu'au midi. Dès le matin, les résidents se sont rassemblés au bord de la rivière de Tuntang. Dans la tradition tenue tous les deux ans, le responsable du village de Ngombak vient chercher le chef du village de Karanglangu en utilisant un radeau décoré. Alors que les habitants du village de Karanglangu, soit les vieilles ou les jeunes, ils traversent à pied la rivière, aidés par l'escorte des résidents du village de Ngombak. Les habitants du village de Ngombak, qui les attendaient depuis longtemps, ils accueillent chaleureusement. Après être arrivés au village de Ngombak, centrés sur la salle du village, une grande fête les attend. La tradition d'Asrah Batin est étroitement liée aux croyances du peuple sur la figure de Kedana et de Kedini, à savoir Raden Sutejo et Roro Musia, comme les fondateurs du village de Karanglangu et le village de Ngombak. Selon la mythologie, Kedana et Kedini sont frères. Ils ont été séparés quand ils étaient petits. Kedana habite dans le village de Karanglangu, cependant Kedini habite dans le village de Ngombak. Quand ils étaient adultes, ils se sont rencontrés jusqu'à ce qu'ils soient tombés amoureux et presque mariés. Mais le mariage n'a pas eu lieu après qu'il ait été révélé qu'ils étaient frères et sœurs qui ont été séparés depuis longtemps. La tradition d'Asrah Batin a lieu pour commémorer Kedana et Kedini. Asrah Batin est un autre mot de pasrah batin, c'est-à-dire essayer d'être sincère avec la réalité. Pasrah batin est aussi une forme de gratitude à Dieu, parce que le mariage interdit entre frères et sœurs ne se produit pas. L'histoire entre Kedana et Kedini est une histoire vraie. Cela est prouvé par la présence de tombes. Il est aussi prouvé par l'interdiction de génération en génération des jeunes du village de Karanglangu et de Ngombak à s'aimer et à se marier. Selon les habitants des deux villages, si l'interdiction est violée, il y aura une catastrophe. Et maintenant, cette tradition n'est pas seulement un rituel traditionnel, mais elle est également devenue une attraction touristique de la région de Grobogan. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur, discutant sur les ambassadeurs des supporters de l'Indonésie.
Warna-warni. L'Indonésie en couleur présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Le directeur général de l'information et de la communication publique du ministère de la communication et de l'information, Niken Widyastuti, a déclaré que les Jeux asiatiques 2018 sont un événement important pour le nom de l'Indonésie. Donc, pour faire réussir l'événement sportif en Asie, cela nécessite l'implication et la participation de la communauté. Par conséquent, le gouvernement, par le biais du ministère des Communications et de l'Information, fait une demande des ambassadeurs des supporters de l'Indonésie. Grâce à cette application, la sélection des représentants des supporters indonésiens de toutes les régions d'Indonésie est effectuée afin qu'ils possèdent et participent à l'organisation numérique des Jeux d'Asie 2018. Cette application, qui est basée sur un système d'exploitation Android, a été lancée en juillet dernier et est déjà disponible sur le Google Play Store. Elle peut également s'inscrire sur le site Indonesian Supporters Ambassador. Les ambassadeurs du supporter de l'Indonésie, DSI, est un concours pour trouver l'ambassadeur de supporter de toutes les provinces en Indonésie comme une forme de soutien aux Jeux asiatiques 2018. Les ambassadeurs sont choisis pour représenter les partisans indonésiens de chaque province en fonction des résultats du vote par l'application. Ce soutien est donné par des électeurs, des personnes qui peuvent voter pour les partisans des supporters en donnant des votes aux ambassadeurs choisis. Les électeurs peuvent choisir un seul mâle ambassadeur et une femme ambassadeur peut provenir d'une autre province pour chaque tâche étant terminée. Les électeurs peuvent donner leur vote d'ambassadeur après que l'ambassadeur ait terminé la tâche suivante. La chose à retenir est que les ambassadeurs ne peuvent pas devenir des électeurs. La tâche d'un ambassadeur est de terminer la mission jusqu'à un délai prédéterminé. En une semaine, il y aura deux tâches à accomplir. Pour chaque tâche qui est terminée, chaque ambassadeur doit recueillir autant que possible pour qu'un vote puisse être élu en tant que représentant de sa province. Plus tard, il y aura 68 ambassadeurs de supporters sélectionnés sur la base du plus grand nombre de voix dans chaque province d'Indonésie. De chaque province sera pris un ambassadeur masculin et une ambassadrice. Tous deux recevront une invitation et l'occasion de participer à l'ouverture des Jeux asiatiques 2018 à Jakarta. Les conditions d'inscription en tant qu'ambassadeur sont homme ou femme de nationalité indonésienne et personne inscrite âgée de 18 à 45 ans. La période du programme DSI dure un mois, soit du 7 juillet au 7 août 2018. L'application DSI offre un autre service, à savoir un quiz quotidien où le prix est une marchandise des Jeux asiatiques 2018. En outre, des informations sur les Jeux asiatiques 2018. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur. Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Salut les amis de RRI du Service Mondial de la Voix de l'Indonésie, n'importe où que vous soyez, encore avec moi Tiwi, dans la rubrique du magazine Musica. Cette édition va vous présenter les chansons de 420, un groupe musique d'Indonésie. Pour commencer cette édition, je vous présente une chanson intitulée « Kita Pasti Tua » qui signifie « Nous serons vieux ». Cette chanson fait partie du dernier album de 420 intitulé Ego dan Fungsi Otak, ou en français Ego et la fonction cérébrale. Les paroles de la chanson rappellent à la jeune génération qu'elles vieilliront un jour. Toute l'énergie et tout le charme pendant les jeunes vont disparaître, mais l'âme peut encore rester jeune. Bon les amis, écoutons la chanson Kita Pasti Tua, en français Nous Serons Vieux, chanté par 420. Bonne écoute.
Ini cerita ketika tulang mulai menua, masih mungkin ada hasrat yang menggebu-gebu, berkumpul dan bernyanyi seperti dulu. Wajah tampanku keriput dan badanku membungkuk, rasa ingin tak percaya, kini ku menua, tak menggoda layaknya saat muda. Tampanku keriput dan badanku membungkuk, rasa ingin tak percaya, kini ku telah menua, tak menggoda layaknya saat muda. Bye.
Voilà la chanson de Fort 20 intitulée « Kita pasti tua » en français « Nous serons vieux ». Le groupe de musique de Fort 20 formé par une association de tolérance nommée 80 ou en indonésien 420 qui a été formé en 2010. Puis en 2014, le fondateur de 80 a puis formé le groupe de musique de 420 dont les membres sont Ari, Nui et Roots. Et les amis, je vous présente ensuite une chanson qui vous invite à être gentil dans un monde plein d'ambition matérielle et de folie. Voici la chanson Zona Nyaman, ou en français Zone Confortable, chantée par 420.
Pagi ku terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari perang. Keluarlah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu. Bekerja bersama hati, kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru. Berkarya bersama hati. Ekoku merangkul orang-orang yang mulai sejiwa denganku. Kebeeman membukakan jalan mencari teman. Bergeraklah dari zona.
zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu. Bekerja bersama hati kita ini insan, bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah sama hati.
Voilà la chanson de 420 dont le titre est Zona Nyaman, en français la zone confortable. 420 porte généralement les genres de la musique pop et folk. Les paroles contiennent souvent des thèmes de pluralisme, de tolérance et d'existentialisme. Grâce à la combinaison d'arrangements de chansons soignées et de paroles significatives, 420 est adoré par les membres de l'association 80 et aussi par les amateurs de musique indonésienne. Et les auditeurs, la chanson suivante de 420 à écouter s'intitule Kusut, accompagnée par les extraits de guitare acoustique et du son de la pluie. Cette chanson est un cri du cœur de quelqu'un qui vient d'être laissé par son amant. Mais certains auditeurs indonésiens supposent que cette chanson décrit les difficultés d'une personne à laisser quelque chose de si tentant, mais de si lui nuire. Alors bon les amis, je vous donne la chanson Kusut, ou en français, Emmêlé, de 420.
Tolong jauhkan nafsuku dari pesona awamu. Aku terjangkit dan sakit, terjebak di ruang sempit. Membiru indraku, susah payahku melepas. lepasmu. Terlihatku palsu tanpa rasamu menjamahku, tanpa ragamu di sampingku. Bukanlah wujudmu ranjang ternyaman bagiku. Henti bergumam hati, cabutlah biar tak membiru indraku. Susah payahku melepasmu. Terlihatku palsu tanpa rasamu menjamahku, tanpa ragamu di sampingku, tanpa eratmu menggenggamku, tanpa rahmu.
Chers auditrices et chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Avant de terminer cette émission, nous présenterons les musiques indonésiennes. Merci à tous. Et à bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, La Voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, La Voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.